Quotidien, 5e édition, avec Francine Forget.
Bonjour tout le monde. Et oui, youpi, c'est vendredi. Mais on espère quand même que vous allez passer la journée avec nous à écouter les différentes émissions de Canal M et aussi la belle musique qu'on y passe. Alors, nous sommes le 18 août 2023, Francine Forget au micro. Derrière la vitre, j'ai deux compagnons très agréables. Évidemment, notre metteur en onde, Mathieu Tessier. Bonjour Mathieu.
Bien le bonjour tout le monde.
Qui est accompagné de Jean-Christophe Matt. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Francine.
Bonjour Jean-Christophe. Et on salue évidemment Yvan Deslauriers, le co-animateur de cette émission, qui est toujours en vacances. On espère qu'il en profite. Vous avez l'air découragé, Mathieu. Vous trouvez qu'il en prend trop?
Ou... Oh, je n'oserais jamais lui dire ça en plein micro. Mais,
Vous avez des réserves, vous, maintenant, au micro.
Exactement. Je me garde une petite gêne.
C'est bien.
C'est bien, bien. Hein?
Oui, c'est bien. Il faut quand même se tempérer. Il faut quand même pas exagérer. Ceci dit, est-ce que vous avez des événements non gênants? dont vous pouvez nous parler ce matin, ont marqué votre semaine.
Oui, à part les nouvelles preuves de vie sur la planète Mars, je pense que ça a été une semaine...
Ben, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup,
c'est
ça,
déjà,
là.
C'est déjà un bon départ, mais...
Oui, ça vous inquiète pas, ça, vous?
La vie sur Mars? Oui. Absolument pas.
Ça vous inquiète pas là, que les fameux petits bonhommes verts dont on parlait autrefois apparaissent tout à coup? Ils sont peut-être déjà là, puis on les voit pas d'ailleurs.
Oui. Non, absolument pas. De toute façon, je pense que si on réussit à communiquer avec eux, ça serait extraordinaire. Quoique, on va dans le fond des océans, puis on découvre des espèces. On n'a qu'à creuser dans notre jardin pour découvrir de nouvelles formes de vie. Alors, avant qu'on s'attarde à celles qui sont à l'extérieur de notre planète, prenons donc soin de la nôtre.
Alors, question, est-ce qu'on pourrait ne pas commencer par établir des canaux de communication entre nous?
En plus?
Peut-être. Hein?
Entre voisins, tiens.
Pourquoi pas? Moi, je peux vous dire que cette semaine, je trouvais qu'il y en avait des bons canaux de communication, particulièrement, je dirais, du côté du week-end, où je me suis laissée emporter par le défilé de la fierté Montréal. Et je vous dis emporter parce qu'en fait, moi, j'étais partie faire des petites courses au centre-ville. Hein, vous savez que je demeure assez proche du centre-ville. Mm-hmm. Et première chose, quand je passe par l'autoroute, mais quand je passe par la place Ville-Marie, je vois plein de monde. Et il y avait une boutique éphémère pour Metallica. Mm-hmm. Alors, les gens attendaient pour aller acheter, je dirais, t-shirts noirs et autres pour bien se préparer pour le show de la soirée. Mais je n'avais pas fini puisque, quand je suis sortie, j'étais vraiment happée par une foule et par un défilé extraordinaire. Il y avait une ambiance là. C'était vraiment... c'est comme s'il y avait une ambiance pour deux, comme on dit, puisqu'on se rappellera que l'an passé, il n'y avait pas eu de fierté
Montréal. Oui, je pense
Montréal.
Que les gens étaient très heureux de retrouver...
Très heureux de retrouver la
défilé.
C'est festif, c'est familial. Et c'est là qu'on voit qu'on aime les parades, comme on disait autrefois à Montréal.
Faut pas bouder notre plaisir, surtout avec celle-là.
Et ouais. Non, mais c'est vraiment bien organisé. Et c'était... C'est ça, je vous dis, c'était festif. La température était là. D'ailleurs, la température, j'en parle pas aujourd'hui. J'ai trouvé que la semaine passée, j'avais fait une vraie folle de moi.
Pourquoi?
Moi,
c'est important.
Je me suis appuyée sur les deux sites que j'avais consultés, mais j'aurais dû faire comme la présidente de la SAM et en consulter au moins trois, puisqu'il n'y a pas plu tout le week-end,
mais
comme je l'avais dit.
Vous savez, hier, on était trois dans la salle de conférence et tout le monde avait une météo différente sur son téléphone.
Ouais.
Même on était quatre et personne n'avait la même météo, donc voilà.
Alors aujourd'hui, je me retiens. C'est sûr que j'aurais probablement pas le choix d'en parler avec une de nos invitées ce matin, Vanessa Anne Paré de Moelle-Épinière et Motricité Québec, puisqu'ils avaient un événement cette semaine qui exigeait en tout cas pas mal de beau temps. Mais bon, je vais me retenir. À part ça, pour les événements de cette semaine, c'est un peu triste. Je vais essayer d'être pas trop triste aujourd'hui, mais j'étais vraiment choquée par la fermeture de métro. Parce oui. que le journal, je ne parle pas évidemment de l'épicerie, là, mais le journal, le métro, oui, c'est important, mais aussi c'est la nouvelle locale. Et pour moi, c'est tellement... C'est des outils de démocratie. J'étais moi-même journaliste dans des petits hebdos locaux dans la région de Québec. Et c'est là qu'on voit l'information pour tout ce qui nous touche dans notre arrondissement, dans notre localité, dans notre petite municipalité. Alors, une vraie tristesse, à mon avis. Et probablement que ça ne fait que commencer. Il ne faut pas être... faut pas être découragé, mais il faut l'être un peu parfois. Alors donc... Outre Mme Vanessa Anne Paré, que nous recevrons ce matin, Monique Kirouac y sera, comme à l'habitude, une entrevue avec Kim Auclair, qu'on a déjà reçue ici, qui va nous parler de 5 trucs pour accepter sa surdité. Marcel Dugas y sera, évidemment, notre historien. Et aujourd'hui, il nous parle de Madeleine Parent, alors une féministe syndicaliste, une grande dame du Québec. Et voilà, c'est parti!
J'ai pas peur du sein, je suis plus une enfant pour qui tu prends. Faut que je me dépêche de vivre ma vie, maman. J'ai déjà trouvé mon premier cheveu blanc. Je sais pas si tu comprends comment je me sens. Quand je vois passer les fusées dans le firmament, je me dis qu'on va écouter avant longtemps. Quand je regarde et de surpopulation, peut-être que la bombe à neutrons sera le meilleur remède contre la misère sur la terre. Oui. Naturellement, tu regardes seulement les téléromans, maman. Tu sais pas ce qui se passe dans l'univers. J'ai 12 ans, maman. J'ai besoin d'argent. Qu'est-ce que je vais faire pour gagner ma vie, maman? Je vais pas étudier pour rien jusqu'à 30 ans. J'ai 12 ans, maman.
J'ai 12 ans, maman, de Diane Dufresne. Très belle suggestion, chère Francine.
Oui, ça m'inspire parce que 12 ans, c'est bientôt le retour à l'école, on en parle beaucoup. Et je trouve qu'à chaque fois, il y a comme une petite rupture quand on est parent, quand c'est la rentrée des classes, parce que c'est une année qui s'ajoute. Et en même temps, mais on se dit, il a grandi, elle a grandi. Et aussi, ça fait tellement un beau lien avec une belle histoire que je vais vous raconter, qui est rapportée à la une du Journal de Montréal, sauvée par un héros de 12 ans. Alors, il s'appelle Théo Ferland et je vous raconte l'histoire. C'est grâce à un petit bonhomme de 12 ans, un vrai héros, qu'un père de famille et ses deux enfants sont encore en vie, après avoir échappé de justesse à une noyade en plein fleuve Saint-Laurent, mercredi après-midi. Élissa Cloutier nous raconte cette histoire. Le papa a dit « Si Théo n'avait pas été là, c'était terminé pour nous. » Résident de l'île des Sœurs depuis qu'il est tout jeune, M. Boily, le papa, aujourd'hui âgé de 36 ans, il a l'habitude de se rendre en bateau sur les bancs de sable qui sont situés sous le pont de l'île dans le village de Saint-Pierre, lorsque le fleuve est à marée basse. Mercredi, il fait beau, le soleil vient de faire une apparition, alors il décide d'amener ses deux enfants, Alice, 8 ans, et Émile, 11 ans, et leur ami, Théo, pour aller faire une petite escapade. Et voilà, ça tourne au vinaigre, comme on dit, c'est que la petite Alice perd pied, elle tombe à l'eau. Son frère tente ensuite de lui venir en aide en lui apportant la veste de sauvetage qui était demeurée dans leur embarcation. Il perd pied à son tour. Pris de panique, le père, il vient à leur rescousse, il tente de les ramener, mais en vain. Le petit Théo, lui, il réussit, qui était dans l'embarcation, il réussit à toucher la rive. Il nage. En fait, il a nagé en pensant à son papa, qui a été emporté par le cancer en février dernier. Et il dit, c'est lui qui m'a donné la force et le courage de continuer à nager. Il était contre le courant et pourtant, il continuait et disait, non, moi, je ne vais pas mourir aujourd'hui. Et c'est tellement beau. Alors, il est embarqué dans l'embarcation qui avait dérivé et il savait évidemment pas conduire. Hein? Il y a 12 ans, il a réussi, le moteur a calé à quelques reprises, il a réussi à partir et aller chercher les autres au large. C'est beau, hein? Ah, c'est magnifique. Quelle belle histoire. J'en ai une autre belle histoire à vous raconter. Alors, ce matin, on essaye d'être un peu... positif, faut croire. Cette fois, il est rapporté dans la presse plus, en une de la presse plus. Hospitalisation en santé mentale. Alors, se faire soigner chez soi ou encore dans un café, pas loin de chez soi, je pourrais dire ça comme ça. C'est la première fois à Montréal que des patients qui sont aux prises avec des troubles de santé mentale sont hospitalisés dans le confort de leur foyer. La journaliste Alice Girard-Bossé de la presse a accompagné une équipe médicale le temps d'une journée et elle a produit aujourd'hui un écran qu'on peut retrouver dans la presse plus. Elle a entre autres suivi Mathieu. Elle commence son écran en disant « Ils auraient pu me perdre si je n'avais pas eu ce suivi ». Alors Mathieu, il est assis près de la fenêtre d'un café du plateau à Mont-Royal, il se confie et il est un des premiers patients à avoir bénéficié de ce programme d'hospitalisation à domicile en santé mentale à Montréal. C'est un modèle que Québec aimerait vraiment instaurer à travers de la province. C'est un mercredi après-midi doux. Il y a une infirmière clinicienne qui est là, Janie Bouchard. Elle a donné rendez-vous à Mathieu dans leur café habituel, comme c'est le cas plusieurs fois par semaine. Les autres clients du café ne le savent pas, mais Mathieu, il est hospitalisé. Alors, on a mis ça entre guillemets, parce que généralement, quand on parle d'hospitalisation, on parle évidemment d'être dans un hôpital. Mais Mathieu est hospitalisé en externe, si on peut dire, pour des troubles de santé mentale. C'est-à-dire qu'il fait l'objet d'un suivi médical serré à domicile. Ce programme du CIUS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal, qui offre l'hospitalisation à domicile en santé mentale. C'est une première à Montréal et c'est en vigueur depuis le 12 juin. L'équipe regroupe une quinzaine de professionnels de la santé qui se déplacent plusieurs fois par jour à la rencontre des 14 patients qu'ils suivent, dont Mathieu. Depuis plusieurs années, Mathieu, qui est dans la trentaine, y fait face à des pensées envahissantes, des troubles obsessifs, compulsifs, des phobies et de l'anxiété. Ça l'empêchait de fonctionner complètement et il imaginait le pire et il pensait tout le temps au pire. En juin, sa situation s'est détériorée. Il a été hospitalisé, était incapable de poursuivre ses activités quotidiennes et il s'est rendu à l'hôpital Notre-Dame. Il a passé une semaine et après ça, on lui a dit qu'il y aurait un suivi, mais que ça serait un suivi qui serait fait à l'externe. Alors donc, il était très heureux qu'on l'ait écouté, qu'on lui ait donné un plan de suivi et dit « Cette rencontre m'a donné espoir, c'était un moment clé pour moi pour aller mieux ». Alors ce programme, comme je l'ai mentionné d'emblée, qui regroupe présentement une quinzaine de professionnels de la santé à Montréal, mais on voudrait que ce service soit offert évidemment, non seulement ici, mais aussi à la grandeur de la province. Alors c'est un dossier à suivre parce que c'est extrêmement intéressant, c'est une belle nouvelle. C'est difficile de toujours aller dans les belles nouvelles, là. Fait que c'est bon, j'ai pas le choix. Faut que je parle de la rentrée scolaire. Bon, Mathieu a un grand sourire en disant je le savais qu'elle craquerait, mais c'est
non,
difficile.
Mais vous avez, ça fait 16 minutes qu'on est en onde, je pense que.
Hein, c'était pas pire mon affaire. Hein? Ouais, c'est ça. Puis Monique, elle va nous remettre de la bonne humeur dedans certainement, mais on ne peut pas passer à côté du fait que c'est la rentrée scolaire. Qu'il y a encore les mêmes sujets qui reviennent, c'est-à-dire qu'on va commencer l'année, une nouvelle année scolaire, avec un manque incroyable de profs. Là, on est rendu à des milliers, là, c'est plus autour de 1000, là. On parlait de 5000, est-ce qu'on est un peu, je ne sais pas, un peu trop défaitiste, mais en tout cas, il y a un problème là, comme on dit. Et aussi, la question du cellulaire à l'école, qui n'est toujours pas réglée, qui revient encore. Alors, on a l'impression, la semaine dernière, j'avais fait un lapsus en commençant qu'on était en 2003, mais je me demande si c'est pas vrai qu'on est en 2003. Alors, Marco Forcier, dans Le Devoir, aborde, lui, un autre sujet qui fait encore polémique dans les écoles. C'est le fameux cours qui en remplacé éthique et culture religieuse, qui est toujours en implantation progressive. Et il rapporte un essai percutant de la professeure Mireille Estivalezès de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, qui déplore dans son essai la mise au rencard démagogique et partisane du cours en ECR, là, c'est-à-dire éthique, culture, religieuse. Bon, alors elle dit que le nouveau cours, qui est Culture et citoyenneté québécoise, il s'inspire d'une vision réductrice de la laïcité prônée par le gouvernement Legault. Alors elle ne va pas de main morte, finalement, dans son essai. Et ce qu'on comprend, évidemment, que c'est cette voix qui s'élève, elle n'est pas la seule. Il y a derrière elle d'autres enseignants qui vont dans le même sens qu'elle. Et on dit dans cet article que l'implantation du nouveau cours va continuer à se faire de façon progressive à la rentrée scolaire. Et comme l'an dernier, les enseignants vont être libres d'enseigner l'ancien cours ou sa nouvelle version en faisant place à la culture et à la citoyenneté. Mais c'est sur la définition justement de citoyenneté où peut-être que là, il y a un petit peu d'accrochage dans le sens qu'elle est très axée sur celle d'ici. Et peut-être que les fondements de la citoyenneté québécoise sont très intéressants, mais on devrait peut-être s'intéresser surtout à ces valeurs. Alors voilà, donc on va continuer sûrement sur une bonne note avec Monique Kirouac. Bonjour Monique, je m'espère que je ne vous ai pas donné une trop grosse pression en disant que vous étiez pour continuer sur des belles nouvelles parce que la semaine passée, c'était votre orientation.
Ben, c'est encore celle-là.
Ah, parce bravo.
Vous avez visé dans le mille. Et je vous remercie beaucoup pour la petite musique de transition. Je l'aime beaucoup.
Bon,
merci à Mathieu.
Tant mieux. Merci à Mathieu. C'est ce que j'allais dire. Faut remercier nos messieurs de l'autre côté de la vitre.
En effet. Alors, je vous parle d'abord, Francine, d'agriculture et de persévérance. Alors, voici la nouvelle. En 10 ans, elle a dû revoir, rétrécir, bûcher littéralement son projet jusqu'à ce qu'il tienne la route, mais y elle est parvenue. Il y a plus de 3 semaines, 21 imposantes bêtes poilues ont débarqué dans la vie d'Anouk Caron et de son conjoint Patrick Stickler, amorçant le début d'une nouvelle aventure. Ils sont devenus agriculteurs, et pas n'importe quel, des éleveurs de bisons.
Ah, quand même!
Quand même! Alors, on peut voir 22 bêtes paître tout doucement dans les champs de Rustique Bison, c'est le nom de leur entreprise, à Saint-Herminé-Gilde. Alors, Saint-Herminé-Gilde, Francine, c'est à quelques minutes de Coaticook. Et, à la surprise de tous, à peine quelques jours après la réception des animaux, ben, il y a un petit nouveau tout orange vêtu qui est apparu au pied de sa mère. Alors, il paraît par ailleurs que c'est tout un défi d'interagir avec ces grandes et lourdes bêtes. Pourquoi choisir cet animal? Ben, il semblerait qu'Anouk a eu un véritable coup de cœur en visitant une ferme de Saint-Jean-Port-Joli. Elle a vu un animal vraiment tranquille, puis en même temps imposant et un peu sauvage.
Oui, imposant en effet.
Oui, alors il faut dire que le bison est aussi très rustique et tolère autant le chaud que le froid. Il paraît, Francine, qu'on en voit au Texas jusqu'en Alaska. Alors, ils peuvent sauter jusqu'à 6 pieds de hauteur. Donc, Anouk a installé des clôtures de 8 pieds par précaution. Le mâle reproducteur de chez Rustique Bison pourrait peser entre 2000 et 2200 livres à maturité. Une bête de 2 ans produit environ 240 kg de viande, imaginez. Alors, ben, on leur souhaite bonne chance. Maintenant, je vous parle d'innovation alimentaire. Alors, un simple bâtiment de ferme, niché dans la campagne estrienne, ni son, ni odeur particulière.
Oh, c'est beau, ça. Vous avez fait dans la poésie, en plus. Donc, là, vous me mettez de la pression sur les épaules. Parce que la semaine prochaine, je devrais être poétique.
En plus, oui. Alors, rien ne laisse présager que les installations de l'entreprise Gria peuvent produire et transformer, attention, 300 millions de grillons par année en farine alimentaire. Alors, lancée il y a à peine 3 ans, l'entreprise de Cookshear Eaton a maintenant tout en main pour porter cette production à un niveau encore plus impressionnant. Alors, ils veulent produire, en fait, ce volume en 1 mois. Donc, multiplié par 12, ça va donner quelque chose comme 3,6 milliards de grillons qui vont être transformés en farine alimentaire. Gria est la seule entreprise au Québec à détenir les certifications nécessaires pour transformer le grillon pour l'alimentation humaine. Et il faut souligner que, contrairement à l'élevage animal, ben, la production d'insectes a un impact environnemental nettement moins important, que ce soit en consommation d'eau ou en émissions de gaz. Donc, on leur souhaite aussi bonne chance dans leur émancipation.
Est-ce qu'ils sont distribués dans les épiceries, Monique, j'imagine?
Ben, en fait, ils ont des débouchés, oui, dans les épiceries. Ils ont, je pense que c'est les produits NAC, N-A-T-R-E-M-A, qui commercialisent des barres énergétiques qui contiennent des farines donc d'insectes. Et il y a la marque aussi Naturalia qui offre la farine de grillon chez Metro, alors qui utiliserait cette farine de chez Gria. Je passe maintenant à sport et musique. Alors, il y a la Magagoise Hélène Filion qui participe à la plus grande randonnée en kayak de mer au monde. Parcourir 250 km en kayak entre Montréal et Québec en 4 jours, c'est ce qui attend les 180 participants du défi kayak des gagnés. Donc, jusqu'à dimanche, les kayakistes vont pagayer sur le fleuve Saint-Laurent au profit de, Jeunes musiciens du monde, JMM. L'objectif est d'amasser 450 000 $ pour permettre à l'organisme d'offrir gratuitement des cours de musique à des jeunes issus de milieux défavorisés. Alors, elle assure que ce ne sera pas facile pour les kayakistes moins expérimentés qui devront franchir de 60 à 70 km par jour. Alors, à eux aussi, ou à elles, on leur souhaite bonne chance.
Quel beau défi et quelle bonne idée hein, de s'associer à la culture, sport et culture. Quel beau,
ben,
hein? Quel beau mariage.
Invraisemblable, n'est-ce pas? Alors, cure de rajeunissement, les propriétaires de la cantine Chében ou... Non, chez Ben, Onsbourg-la-Bédène.
Oh, j'ai failli en parler, Monique, ce matin.
Alors, c'est à Granby. Alors, ils tiennent à leur légendaire enseigne au néon. Faudra inviter les auditeurs et auditrices à aller voir ce gros Ben. Et ils ne sont pas les seuls. Alors, l'appel à tous qu'ils ont lancé jeudi sur les réseaux sociaux afin de dénicher la perle rare qui pourra les aider à le restaurer est vite devenu viral. Il y a eu un partage de 10 000 republications, en fait. Alors, c'est installé depuis 1974 en façade de la rue principale dans un monde idéal. Ben, la famille Dubé, à la barre de la cantine fondée en 2050 par Bernard Ben, Dubé senior, souhaite conserver l'allure actuelle du
1950
populaire.
Probablement, Monique?
J'ai dit 2050?
Oui, c'est ça.
Non, 1950, excusez. Alors, l'enseigne, elle doit être repeinturée. Pour la repeinturer, il faut enlever les néons. Si on enlève les néons, il faut les réinstaller. Si on les réinstalle, on aura besoin de souffleurs de verre. Il y en a de moins en moins. Alors, parce que Onsbourg est faite à partir de lettres en verre soufflées. Il faut rappeler, en terminant, Francine, qu'à une certaine époque, la ville de Granby était reconnue pour ses enseignes de néons grand format. Et on dit que celles-ci ont une valeur patrimoniale. Si vous voulez en savoir plus, il y a un article dans Le Devoir, sous la plume d'Étienne Paré, qui nous parle de d'autres affiches de cet ordre qui ont besoin de beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup d'artisans pour pouvoir les conserver telles quelles. Alors voilà, Francine, c'était vos petites nouvelles de l'Estrie.
Bien, merci beaucoup, Monique.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Alors, rapidement, dans Le Devoir ce matin, on parle d'une petite entreprise de Québec qui fait dans la mascotte. Alors, c'est vraiment intéressant. Cette dame qui s'appelle Élise Groux a une fille qui est atteinte d'une maladie du syndrome de Sturge, en fait, qui est atteinte du syndrome de Sturge-Weber. Et elle a fondé une compagnie pour égayer, je dirais, différents groupes. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs enfants qui sont atteints de handicap, de limites, etc., qui peuvent participer à ces spectacles. C'est dans Le Devoir de ce matin. Au tour, Kim Auclair.
Vous pouvez rejoindre l'équipe de
Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget.
Time to get away, gotta help myself soon. Help myself, ne faisons que passer.
Oups, Gaëtan Roussel qui chantait « Help Myself ».
Oh, c'est un bon choix, je trouve.
Ben, je suis bien content.
Ah, entraînant, ça fait du bien. On respecte notre orientation de l'émission.
Et je vous suis.
Et on va continuer à le faire certainement avec Kim Auclair. Bonjour, Kim.
Bonjour.
Ça va bien?
Ben oui, ça va bien. Je suis contente de te parler ce matin.
Ben moi aussi. Alors, je rappelle que Kim, quand même, qui n'est pas une inconnue de notre émission, est consultante en communication. Elle a son entreprise. Kim est très présente sur les médias sociaux. Vous pouvez la suivre sur Instagram, sur Twitter. Sur X et sur Threads. Avant qu'on commence à parler de notre sujet, Kim, vous êtes la plus enthousiaste que je connaisse à ce moment-ci sur Threads. Pourquoi? Quels sont les avantages pour vous d'utiliser ce média?
Oui, c'est un grand avantage pour moi d'utiliser les médias. C'est une façon de contrer mes défis au quotidien de communication. Il n'y a pas de barrière pour s'exprimer.
OK. Et Threads est quand même un plus pour vous. C'est ce qu'on comprend.
Oui, c'est vraiment un plus pour moi, énormément.
OK. Alors, j'ai présenté Kim en disant qu'elle était consultante en communication. Kim, elle tient un blog. Et un de ses blogs a porté très récemment sur « Il n'est jamais trop tard pour accepter sa surdité ». Mais ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est qu'il y avait 5 trucs pour mieux accepter sa surdité. Alors, si ce matin, ben, on va en parler avec vous, Kim, de ces 5 trucs, on est très intéressés. Bon, dans un premier temps, vous dites il faut exprimer ses besoins, il faut oser.
C'est ça, c'est en fait, mon article s'adresse aussi à toutes les personnes qui sont en situation d'handicap. Qui ont peut-être un handicap invisible, qui doivent s'insérer dans la société, qui souvent peur du jugement, des remarques qu'ils peuvent avoir aussi, surtout au niveau du travail, des blocages. Alors, c'est vraiment pour ça que j'ai écrit cet article-là. Ça m'a libérée aussi de peu, puis ça a attiré beaucoup de gens. Il faut dire que moi, j'ai une surdité, je vais juste répéter un peu pour les gens qui écoutent, j'ai une surdité de naissance, et je suis née avec cette surdité-là. On ne sait pas d'où ça vient. Et j'ai grandi dans un univers entendant. Donc, mes parents ont fait le possible qu'il fallait pour me donner les outils nécessaires, mais comme je voulais, comme les autres, j'ai refusé ces outils-là. Donc, interprète, tout ce qui est aide à la prise de notes, tout ce qui pourrait me permettre de réussir à l'école, d'apprendre beaucoup de matière. Donc, je me suis beaucoup adaptée aux autres. Mais qu'en est-il des gens qui s'adaptent vraiment à soi, puis surtout si toi, tu n'acceptes pas ton handicap invisible, ben, tu ne peux pas nommer tes besoins, tu n'es pas en mesure de nommer, de dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Mais en plus, tu ne le sais pas toi-même. Qu'est-ce qui n'est pas relié avec ta société? Qu'est-ce qui n'est pas relié avec toi? Fait, comme à l'âge de moi, j'ai 39 ans, et ça remonte, l'acceptation de ma société remonte à 2017. Donc, c'est quand même assez récent.
Oui, c'est récent.
C'est ça. Et c'est comme un jour, un lendemain, ben, j'ai écrit un livre en 2017. J'avais le goût je savais que fallait que je passe à une nouvelle étape, mais je pensais pas que c'était ça où est-ce que j'en étais rendue. c'est que je me définissais beaucoup plus par mes réalisations professionnelles que qui j'étais. Donc, c'est venu comme naturellement un élément déclencheur. Ça a été vraiment, oui, mais Kim, c'est bien beau, tout ce que tu as accompli malgré aujourd'hui, tout ça. Mais tu as une sourdité, puis c'est ça qui te rend un peu plus forte dans ce que tu fais. Donc, pour revenir au sujet, ben l'acceptation de ma sourdité, ça a été beaucoup, premièrement, de une quête personnelle. Et ça a été d'aller à la reconnecter avec une communauté que j'avais ignorée pendant beaucoup d'années. Des personnes sourdes, des personnes malentendantes. Il fallait que je dissocie qui est Kim dans la vraie vie. Qui est Kim aussi par rapport à sa sourdité. Elle vit des défis qu'elle ignore peut-être. Et j'en croise beaucoup depuis que je me suis exprimée justement là-dessus. Je vois que c'est difficile pour beaucoup de personnes d'en parler ouvertement. C'est comme si on dit, j'ai des frissons quand je t'en parle encore, parce que j'ai des gens qui viennent me voir et disent, oui, mais moi, je fonctionne normalement dans la vraie vie, puis j'ai pas tant besoin d'aide. Je vois pas pourquoi je me montrais un peu plus vulnérable. Tu sais, j'en ai pas besoin d'aide. Puis mais c'est correct, c'est correct, j'étais comme ça moi aussi. Mais à un moment donné, tu t'épuises. Une sorte de fatigue. Une fatigue liée à la société, de fatigue de s'adapter aux autres, mais que t'es dans un univers que les gens, c'est naturel, c'est pas contre eux, mais ils s'adaptent pas. Donc, il faut, on n'a pas le choix à un moment donné de comme l'accepter pour mieux vulgariser. C'est comme si pendant de 2017 jusqu'à 2020, j'en ai parlé de façon intensément, j'ai parlé de mon cheminement. C'est ou d'abord et avant tout, si on veut sensibiliser les gens à notre handicap, il faut en parler. Il faut être capable de dire c'est quoi nos besoins à nous. Et ça, je te donne un exemple concret. Moi, j'ai besoin d'avoir le contrôle de la discussion, comme que je fais en ce moment.
Ben, c'est ça, j'allais dire, Kim, ça va très, très bien. Je pense que, je vais te dire dessus, là. Là, je pense que tu as le contrôle total. Je te suis, vas-y.
C'est ça. Mais j'ai besoin. Mais je n'étais pas capable avant de dire aux gens, tu sais, les gens professionnels, on a la peur d'être trop vulnérable. On a la peur de perdre des opportunités d'affaires en disant nos obstacles de communication. Donc, quand une personne m'écrivait sur les réseaux sociaux puis me dit, ben, est-ce qu'on peut s'appeler? Là, moi, je sens un blocage. C'est comme si je sens un blocage d'être capable de nommer ses besoins, de dire ouvertement, j'ai une société. Moi, j'ai de la misère au téléphone. J'aime pas ça, le téléphone. Ben, ça enlève de la pression. Ça nous permet d'être plus nous-mêmes. Donc, ça, c'est un premier conseil que tout le monde le fait de pouvoir réseauter avec des personnes qui ont les mêmes défis que nous permettent de mieux comprendre nos besoins, de mieux comprendre les stratégies de communication, qu'est-ce qui nous permet d'être plus à l'aise.
Oui, je m'excuse, Kim, là, je vais interrompre un petit peu. C'est ce que vous appelez s'entourer de pairs, hein, dans le
oui,
blog, c'est
exact.
Ça?
Exact. Oui, exact. Ça, c'est le premier conseil, oser exprimer ses besoins. Et comme je disais, ben, le web, pour moi, a été un outil extraordinaire pour me positionner sur me faire valoir. Parce que moi, je n'ai jamais voulu parler de ma société. Je ne voulais pas qu'on m'identifie à ça. Là, je suis comme un peu prise. Je vais être transparente avec toi. Je suis comme un peu prise dans un univers auquel je me suis moi-même créée parce que je parle ouvertement de ma société, mais c'est peut-être une impression aussi que j'ai, mais depuis que je parle ouvertement de ma sourdité, j'ai l'impression d'être éloignée de l'univers que j'avais bâti avant 2017, qui était beaucoup plus affaires, entrepreneuriat, business. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être une impression que j'ai. Mais dans le fond, moi, je n'ai jamais voulu qu'on m'identifie comme ça. Fait que j'ai montré mes compétences d'abord et avant tout. Qu'est-ce qui est facile aujourd'hui de me vendre, c'est beaucoup, je suis beaucoup plus crédible.
Est-ce que ça a une influence, je m'excuse Kim, est-ce que ça a une influence sur vos affaires? Quand on dit je m'éloigne de l'univers que je m'étais créé?
C'est ça. Ben, univers créé dans le sens que, j'ai réseauté par Internet, j'ai écrit beaucoup sur l'entrepreneuriat, j'ai écrit pour des gros médias, lesaffaires.com. J'ai eu beaucoup de mandats comme ça. sais, je me suis toujours passionnée par l'entrepreneuriat, le monde des affaires, mais je ne parlais pas de ma société. Mm-hmm. Donc, c'est un peu ça. Fait que là, je me montre, depuis 2017, mais je me montre un peu plus vulnérable, beaucoup plus humaine, mais beaucoup plus moi, en fait, sur le web. Et c'est ça que j'aime de la possibilité, même si ça rencontre certaines impressions que j'ai qui sont peut-être un petit peu fausses, j'en ai aucune idée. Mais le web, on a cette possibilité-là de contourner nos défis en l'utilisant bien, en s'affichant, en s'exprimant d'une certaine façon, au lieu de juste chialer parce que la société va mal, au lieu juste de dire je suis allée à cause de la société ou je suis allée à cause de notre handicap. Mais tu sais, il y a une façon de tourner le tout pour que ça ait un impact chez les autres, d'aider les autres, d'être constructif. Et quand on s'en sert bien, ben ça nous attire une tonne d'opportunités qui nous permettent de gagner beaucoup en confiance. Moi, je dirais que c'est grâce au web que j'ai peaufiné mon français. C'est grâce au web que j'ai appris à m'exprimer, que j'ai fait des conférences, des formations. Moi, j'ai aucun... Mes 16 études, c'est un deck en graphisme. Le reste, le monde des affaires, je l'ai tout appris grâce au web parce que je suis d'abord et avant tout une fille d'action. Donc, les gens pensent que les gens ne sont pas accessibles, mais quand tu leur écris, quand tu structures bien ton message, tu peux avoir accès à une foule de personnes qui ont le plaisir de te parler. Donc, c'est un peu ça que c'est un outil plus puissant.
Ben merci, Kim. Malheureusement, il va falloir s'arrêter là. Mais comme je vous suis, on aura peut-être l'occasion de parler de d'autres blogs. Alors, bonne journée.
Et merci beaucoup.
Le groupe Chose Sauvage qui chantait la valse des trottoirs.
La valse des trottoirs. Quand même. Marcel Dugas, vous êtes là?
Je ne suis pas en train de valser sur le trottoir.
Oh, c'est
la question que vous alliez me poser.
Non, je n'allais pas vous poser cette question-là parce que j'ai presque le goût de me taire. Je vais essayer de vous écouter. Si vous saviez comment Madeleine Parent, pour moi, c'est un modèle d'engagement. Et ce matin, vous allez nous parler d'elle. Alors, je vais essayer de me retenir et de vous laisser tout le temps pour que vous nous en disiez le plus possible sur elle?
Bien, je vais tenter. Je vais faire de mon mieux. On a fait quelque chose d'assez inhabituel au Québec en 2013. On a donné au pont de l'autoroute 30 qui enjambe la voie maritime du Saint-Laurent et le canal de Beauharnois dans la ville du même nom, ouvert à la fin de l'année précédente, le nom d'une femme. Au Québec, comme pas mal partout ailleurs, je pense bien, les femmes sont très nettement sous-représentées dans notre toponymie et notre odonymie. Et c'est particulièrement frappant pour ce qui est des grandes infrastructures, n'est-ce pas? Les ponts, les autoroutes, les aéroports, les choses sérieuses comme ça, ça rappelle toujours des hommes. Mais là, on a fait une exception et on a baptisé le pont en l'honneur de Madeleine Parent, figure centrale du Québec du 20e siècle, qui venait tout juste de décéder à l'âge de 93 ans. Madeleine Parent est née à Montréal en 1918. Son père est comptable. Lui et son épouse, Marie-Anne Rita Forêt, vivent en face du parc La Fontaine. C'est une famille de classe moyenne, mais une classe moyenne qui peut se permettre de faire instruire une fille dans les années 1930. Madeleine va notamment étudier au pensionnat Villa Maria, qui est situé dans Notre-Dame-de-Grâce, tout juste aux limites de Westmount, et l'adolescente sera profondément marquée par la manière odieuse dont les religieuses traitaient les servantes au pensionnat. Et cette expérience-là va donner une orientation à son existence, elle qui consacrera sa vie à lutter contre les inégalités sociales. Elle étudie en sociologie à l'Université McGill et s'implique au sein d'une organisation qui milite pour qu'on donne des bourses d'études aux enfants des classes laborieuses, les ouvriers, les agriculteurs notamment, afin qu'eux et elles aient une chance comparable aux enfants de familles nanties. Et en 1939, elle fait une rencontre qui aura un impact majeur sur son avenir lorsqu'elle est présentée à Léa Robach. Robach mériterait d'avoir sa chronique, j'y viendrai probablement à un moment donné.
C'est ce que j'allais vous suggérer.
Voilà, ben c'est un personnage majeur aussi de notre histoire, même si elle est très peu connue. Elle était de 15 ans, l'aînée de Madeleine Parent, née dans une famille d'immigrants juifs polonais. C'était une syndicaliste et une militante communiste. Et lorsqu'elle se rencontre, Robach raconte à Parent ses souvenirs de la grève des midinettes, une grande grève des travailleuses de l'industrie du vêtement, qu'on surnommait les midinettes, qui était survenue à Montréal en avril et mai 1937. 5000 travailleuses, dont beaucoup d'immigrantes, ont fait la grève et obtenu d'importantes concessions de leur patron. Madeleine Parent va voir dans le militantisme syndical une manière de combattre les inégalités et de lutter contre l'exploitation des petites gens, des femmes tout spécialement, par les grandes entreprises. Elle œuvre au Conseil des métiers et du travail de Montréal, qui est un ancêtre de la FTQ, mais autant on associe Léa Robach à la grève des midinettes, l'événement qui va marquer la vie et la carrière de Madeleine Parent, c'est la grève de la Dominion Textile de Valleyfield. Alors qu'elle travaille au comité d'organisation ouvrière en temps de guerre en 1942, elle rencontre un organisateur syndical nommé Kent Rowley. Les deux seront compagnons de lutte et conjoints-conjointes pendant des décennies. Rowley voulait s'attaquer à la syndicalisation d'industries majoritairement féminines, comme le textile, les manufactures de cigares, l'alimentaire, des choses comme ça. Ses patrons au syndicat n'étaient pas très chauds à l'idée, eux qui voulaient surtout syndiquer les usines de munitions qui tournaient à plein régime en cette Seconde Guerre mondiale. On lui a dit que s'il avait envie de syndiquer des manufactures féminines, il pouvait le faire pendant ses temps libres, pas pendant les heures de travail. On a ciblé l'usine de la Montreal Cottons, qui était une filiale de la Dominion Textile à Valleyfield, parce que c'était le vaisseau amiral de la Dominion Textile dans la région de Montréal. On disait que c'était la plus grande usine du genre au Canada. Et parce que les salaires et les conditions de travail étaient en deçà des standards dans une industrie où les standards étaient très bas. On y travaillait de 50 à 60 heures par semaine pour des salaires qui allaient de 11 à 15 $. Je vous laisse calculer ce que ça représentait comme salaire horaire. Alors que les ouvriers et les ouvrières du secteur gagnaient souvent 20 $ par semaine pour moins d'heures. Et évidemment, on travaillait dans la chaleur étouffante, le bruit, la poussière, ce qui était assez standard à l'époque. Donc, après que Parent et Rowley eurent recruté patiemment les travailleuses et travailleurs de l'usine et d'une autre usine de la compagnie dans le quartier Saint-Henri à Montréal, il n'y avait pas de syndicat. À l'époque, il fallait partir de zéro. Lorsqu'on a voulu s'asseoir pour signer une première convention collective, on avait de nombreux griefs à formuler. La compagnie, c'était une manœuvre classique à l'époque, a refusé de reconnaître l'existence du syndicat. Et finalement, le 1er juin 1946, les travailleuses et travailleurs de la Montreal Cottons de Valleyfield quittent le travail devant l'absence de volonté de négocier de l'entreprise. La Dominion Textile va avoir recours à tous les trucs dans l'arsenal patronal de l'époque, l'intimidation, l'embauche de briseurs de grève. Et surtout, on en appelle au premier ministre Maurice Duplessis, dont les positions antisyndicales sont bien connues. Duplessis, comme il l'a fait plusieurs fois pendant son mandat à la tête de la province, va mettre sa police provinciale, donc l'ancêtre de la Sûreté du Québec, au service de la compagnie. Lorsque la police débarque à Valleyfield, ce n'est pas pour protéger et servir la population, mais bien pour protéger et servir les intérêts de la Dominion Textile et mettre fin à la grève.
On reconnaît bien là M. Duplessis.
Et c'est pas la dernière fois non plus qu'il a utilisé une tactique assez semblable, disons. Il y a eu une journée d'affrontement le 13 août où les grévistes et la population locale qui s'étaient massivement rangée de leur côté vont tenir tête à la police et ça va venir près de dégénérer, mais malgré le portrait apocalyptique que plusieurs journaux vont dresser le lendemain, il y a eu du brasse-camarade, il y a eu du vandalisme mineur à l'usine, mais rien de bien grave. On n'a certainement pas atteint le niveau de violence qu'on verra, par exemple, lors de la grève de l'amiante à Asbestos en 1949. Le gouvernement va quand même arrêter des leaders syndicaux, dont Ken Trowley, pour incitation à l'émeute, laissant Madeleine Parent mener le reste de la grève. Elle, qui était une femme, une Canadienne française, qui n'avait pas 30 ans, elle a mené les troupes à la victoire. Les travailleuses et travailleurs ont obtenu d'importantes concessions de la partie patronale. Mais toutes les grèves n'ont pas été aussi favorables aux ouvriers, ouvrières et à leurs dirigeants syndicaux. Parent a été arrêtée pendant une grève à la chute la nuit suivante. Maurice Duplessis, dont elle était l'ennemi juré, l'a fait accuser de conspiration séditieuse. En d'autres mots, par son action syndicale, elle cherchait à troubler la sécurité de l'État, créer du mécontentement, de la désaffection et de la haine à l'encontre de l'ordre public, des lois et des institutions établies. Rien de moins, le procès dura des années et des années. Elle sera finalement innocentée. Elle a été arrêtée à plusieurs reprises. Mais ce qui sera encore plus dur pour elle, que l'hostilité de Duplessis, que les procès, que les attaques à sa réputation. Elle a été accusée d'être communiste à de nombreuses reprises, mais ça, comme elle le disait elle-même, si vous défendiez les travailleurs, les travailleuses à l'époque et que vous n'étiez pas traité de communiste par ceux qui défendaient le système, c'est que vous ne faisiez pas bien votre travail.
Oui, en effet.
C'était le terme qu'on utilisait à propos de tous les gens qu'on n'aimait pas, qui faisaient des choses avec lesquelles on n'était pas d'accord. Bref, ce qui sera plus dur pour elle, c'est la deuxième grève de la Dominion Textile de Valleyfield en 1952. Le syndicat auquel étaient affiliés les travailleurs et travailleuses de Valleyfield, c'était une filiale d'un grand syndicat américain, comme c'était souvent le cas à l'époque. Et les patrons du syndicat à Washington vont tasser Parent et Rowley de l'affaire et se dépêcher de régler la grève d'une manière qui va contenter la partie patronale. Et pour Madeleine Parent, ça a été une véritable trahison. Non seulement le syndicat avait abandonné les travailleuses et travailleurs, mais il avait trahi les idéaux démocratiques qu'elle défendait. Suite à ça, le couple Parent-Rowley va passer la majeure partie des années 50, 60, 70 à militer en Ontario et à combattre l'influence des syndicats américains au Canada. Elle prend sa retraite du syndicalisme dans les années 1980, mais ce sera une militante jusqu'à la fin de ses jours. Elle était aux avant-postes des mouvements féministes, mais elle avait à cœur de s'assurer qu'ils ne deviennent pas des clubs fermés qui défendaient une vision, on pourrait dire, bourgeoise du féminisme. C'était important pour elle que les femmes des classes ouvrières avec lesquelles elle travaillait, elle avait travaillé toute sa vie, soient représentées. On devait se préoccuper de leurs besoins, tout comme les Autochtones, tout comme les immigrantes. En somme, Madeleine Parent prônait un féminisme intersectionnel alors que le terme n'existait même pas encore. C'est une femme admirable, Francine. Je ne pense pas que j'ai besoin d'essayer de vous en convaincre.
Non, j'étais pas mal convaincue. Vous avez juste ajouté des arguments.
Voilà, il était, il faut le dire, très, très en avance sur son temps.
Malheureusement, c'est ça. Elle a subi les conséquences de ça. Mais quand même, c'est une grande femme. Merci de nous l'avoir fait, finalement, pour certains peut-être, l'avoir fait découverte ce matin, ou encore de nous l'avoir fait mieux connaître. À la semaine prochaine, Marcel.
À la semaine prochaine. Au revoir.
Une courte paractualité, on parle de Madeleine Parent, je ne sais pas si on peut faire un parallèle, mais en tout cas, il y a une jeune fille qui a été assez décidée et elle a eu une victoire juridique pour les personnes autistes comme elle face à l'assurance emploi. Anne-Marie Provost en a parlé récemment dans le journal Devoir. Alors, c'est une résidente de la Pocatière et on dit que ça pourrait donner un coup de pouce important aux personnes autistes qui peinent à obtenir parfois des prestations d'assurance emploi lorsqu'elles se voient forcées de quitter leur travail en raison de leurs conditions. Et elle a perdu un diagnostic officiel, un diagnostic officiel de trouble du spectre de l'autisme en 2020. Et Madame Plourde, bien, elle n'a pas pu garder son emploi. Et c'est ce qui l'a amenée finalement à prendre les grands moyens pour essayer justement de faire reconnaître ses droits. Alors au retour, bien, on va parler technologie et je vais vous parler enfin de la montre intelligente qui peut nous aider à gérer notre stress. Donc, je vous ai promis ça, ça fait au moins 3 semaines, puis on n'avait jamais le temps, mais on va prendre le temps ce matin.
Tidien, 5e édition, avec Francine Forget.
La montre intelligente. Alors, Mathieu a des doutes.
Non,
mais
absolument
voilà.
Pas. Moi, j'aime beaucoup les montres.
J'y suis. Ben, est-ce que vous en avez une montre intelligente?
J'ai des montres que je peux connecter Bluetooth avec mon téléphone, mais on ne les considère pas vraiment comme des montres intelligentes.
Est-ce parce que ce sont de vieux modèles?
Non, pas du tout. C'est non. Juste que ça me permet d'avoir l'heure du cellulaire. Ça me permet de voir si je reçois des appels ou des courriels.
Oui, OK.
Mais c'est tout. C'est tout ce que ces montres-là
ont. Ça va pas plus loin que ça. Alors donc, comme je le disais il y a 3 semaines, au moins, sur le site de François Charron, qui, vous le savez, de temps en temps, je fais référence, il teste différents produits. Alors, il a testé la Fitbit, mais dans le modèle Sense 2. Alors, c'est une nouvelle version, puisque Fitbit, on connaît ça. Elle fait le suivi du stress au cours de la journée. Du sommeil, hein, de nos indicateurs de sommeil, de santé et de dizaines de modes de suivi d'exercice. Alors, bref, elle est pas mal intéressante, cette montre, si, évidemment, on veut se tester, je dirais, régulièrement pour savoir ce qui en est. La gestion du stress directement au poignet, c'est quand même... quelque chose qui est fascinant. Parce que cette montre, elle effectue un suivi des réactions de notre corps tout au long de la journée. Donc, elle nous envoie des notifications, puis ça nous aide à réfléchir sur nos émotions. Elle est dotée d'un capteur qui va faire qu'elle est capable d'enregistrer les moindres variations de notre stress. Et ensuite, ben, elle va nous inviter à réfléchir, à identifier nos émotions et puis à agir, genre marcher, respirer profondément pour faire descendre tout ça. Alors, c'est pas mal une bonne amie, je trouve. Bon, il y a comme un petit problème, par exemple, derrière cette merveille. Il y a toujours des petits problèmes derrière les merveilles. C'est que, évidemment, elle nous envoie sa lecture, nos notifications de stress, mais même si c'est en direct, il y a un décalage. Alors, ce qui fait qu'au bout du compte, quand on est rendu à agir, on peut se dire qu'il y a 10 minutes du temps qui s'est écoulé. Alors, ça se peut qu'on ait repris nos esprits, qu'on ait repris le contrôle de soi, avant justement qu'on soit avisé de le faire. Mais quand même, cette montre, elle est intéressante parce qu'au niveau de la santé, elle est dotée de plusieurs facteurs et fonctionnalités intelligentes. Par exemple, on retrouve au niveau de la santé le suivi de l'oxygène dans le sang, des notifications quant à l'arythmie cardiaque, un indicateur de fréquence cardiaque au repos, un capteur de température de la peau. Ah, ça a dû être pas mal efficace cet été, parce que parfois, on stimait, hein, de temps en temps. Alors, je ne sais pas si ça nous aidait de savoir qu'on était à tel degré, mais bon, des fois, ça peut être amusant. Un suivi de variation de la fréquence respiratoire et aussi un suivi de la santé menstruelle, c'est-à-dire des tendances, des symptômes, des cycles, etc. Bon, alors, c'est quand même intéressant. On voit que ces montres-là, plus ça va, plus elles ont de fonctionnalité. Mais on a tellement d'attentes à leur égard que M. Charron, il dit, ben oui, mais c'est le fun, là, mais il y a encore des affaires qui manquent à cette montre-là. Bon, on n'a pas de Google Maps. On n'a pas non plus le fameux wallet qui nous permet de payer avec notre téléphone. Bon, alors on espère que prochainement, ces deux fonctionnalités vont être intégrées. Par ailleurs, il y a encore elle a quand même d'autres belles caractéristiques, comme son autonomie qui peut durer 6 jours. Tout dépendamment, évidemment, de l'utilisation qu'on en fait, mais 6 jours, là, c'est beaucoup sans être obligé de la brancher. Et quand on a à la recharger, ça se fait d'une façon ultra rapide, une 12 minutes à peine, et on revient à une journée complète d'utilisation. Bon, est-ce que ça coûte cher? Ben, ça dépend de nos besoins, comme on dit, si on est prêt à investir, mais on dit qu'autour de 400 $ c'est le prix de la Fitbit Sense 2, mais il faut savoir que quand on arrive avec d'autres modèles, c'est parfois pas mal plus cher.
Est-ce que l'article dit si les informations sont envoyées au cellulaire ou...
Non, je ne l'ai pas vu, je pense que ça reste dans la montre, oui. Mais peut-être que là, vous me posez une colle, je réponds vite, puis je vous avoue que c'est peut-être pas la bonne réponse. Je vais vérifier.
Oui, c'était pas pour vous piéger. Là,
Non, je vais vérifier si ça envoie au cellulaire. Mais je veux dire une chose, peut-être que vous êtes un utilisateur de ça, la fonction de renvoi cellulaire, montre, mais en général, les gens qui ont la montre en ont fait un outil, je dirais, privilégié.
Unique,
hein? Oui, privilégié. Je ne sais pas. Je vais essayer de voir si c'est possible. Un peu plus tard, je répondrai à votre question. Sinon, j'y reviendrai la semaine prochaine. J'ai un petit délai.
Ou dans 3 semaines.
Bon.
C'était une blague.
Bon. Alors, je vais changer de sujet. Je vais prendre peut-être faire un sujet qui pourrait vous inquiéter un peu. Une intelligence artificielle qui devine nos mots de passe juste en écoutant le bruit des touches du clavier. Alors, on en parlait cette semaine sur 20minutes.fr. Je me suis dit, ça, c'est vraiment « Asseoir, on fait peur au monde hein? ». Vous vous rappelez de ces chroniques « Asseoir, on faisait peur au monde ». C'est un petit peu inquiétant, mais ce n'est pas le but, comme ils ont dit, ces chercheurs britanniques. Quand ils ont développé leur algorithme d'apprentissage, ce qu'ils voulaient voir, c'est que c'est comment on peut mieux protéger finalement nos mots de passe. Mais ils en sont arrivés à décoder n'importe quel texte qui était tapé sur un clavier d'ordinateur. Donc, l'intelligence, elle va se baser uniquement sur les sons émis lors de la frappe. Cependant, peut-être pour nous rassurer, il faut que la personne soit physiquement à côté de celle qui va frapper sur le clavier son mot de passe. Mais je vous dirais que sans faire de prédiction, c'est sûr que... cet apprentissage profond va probablement nous amener vers quelque chose où on pourra capter via un microphone quelconque une précision exceptionnelle, les mots de passe. Mais encore une fois, c'est que ce qu'on veut dans cette étude britannique, c'est de alerter encore pour être très, très prudent pour éviter les attaques de type malveillant sur nos cellulaires, entre autres, et nos autres outils. Donc, faisons attention. On va rappeler que toutes nos données confidentielles, mots de passe, code d'accès bancaire, on les met pas publics, là, dans le sens que des fois, on pense qu'on est bien caché, mais on ne l'est pas. Alors donc, et le système d'authentification à 2 étapes est toujours privilégié. Alors, on va s'arrêter pour les technologies. On continuera la semaine prochaine. C'est une promesse. Et au retour, je reçois Vanessa Anne Paré.
I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. I feel like
demande spéciale de Jean-Christophe, c'était Sia et la chanson Unstoppable.
Ah, Jean-Christophe maintenant se permet des demandes spéciales.
Eh oui, ça lui arrive.
Ouf, on gagne en assurance, on gagne en assurance. Bonjour Vanessa Anne Paré.
Bonjour Francine, ça va bien?
Oui, ça va bien, vous?
Oui, ça va très bien. Puis je suis contente parce que je vais pouvoir parler du sujet dont on avait convenu. Finalement, la météo a été de notre côté. Hier, on n'était pas sûr, mais ça a eu lieu.
Oui. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté le début de l'émission, mais j'ai mentionné que vous étiez la seule avec qui je parlerais météo parce que la semaine passée, je me suis complètement perdue là-dedans. Alors donc, Vanessa Anne Paré de Moilly-Pinière et Motricité Québec, je comprends que votre Festival international de cinéma adapté, ça a marché.
Oui,
ça alors, a marché. Alors, allez-y, on vous écoute.
Donc, on s'est présenté, dans le fond, ça, c'est une initiative de M. Miguel Sorto. C'est vraiment lui qui porte le projet, qui y croit. Puis, c'est la deuxième année cette année. C'était la première fois que c'était en plein air. Donc, on était au parc Raymond Préfontaine, juste vraiment à 25 mètres de la station de métro, grand écran. Et ça a vraiment été une très, très belle soirée, mis à part les petits moustiques là, qui étaient tous après moi. Donc, on a vu à peu près... Je les ai pas comptés, mais 5 à 6 courts-métrages. Donc, chacun portait sur ou mettait en vedette des personnes avec des situations de handicap. Donc, il a été question. Le premier, c'est un documentaire présentant l'équipe de Power Chair Soccer ici au Canada. Ensuite, il y a eu un court-métrage avec des personnes paraplégiques dans différents pays du monde qu'on suit durant une journée, donc du lever au coucher dans leurs activités quotidiennes, puis on voit finalement qu'ils ont des vies très, très riches et bien remplies. Ensuite, un qui mettait, ça c'est un petit peu plus percutant, là, qui présentait deux jeunes personnes en situation de handicap en CHSLD qui avaient une relation sexuelle. C'était un petit peu explicite, donc mais je pourrais entrer dans. Fait que bref, c'était vraiment une célébration là de comment la vie peut avec ou malgré le handicap, dans le fond, peut être riche, puis être tout en nuances aussi, puis dans le fond, c'était vraiment une belle soirée.
C'est une production québécoise ou
Celui sur la sexualité,
oui.
Okay. Le documentaire également là, sur le Power Chair. Les autres, il y avait une production espagnole, brésilienne, puis l'autre, c'était le film qui présentait les personnes paraplégiques, c'était mexicain. Puis je pense qu'il y en a un qui m'échappe aussi. Peut-être qu'il n'y en avait pas 6 finalement, mais c'est ça, ça a bien rempli de la soirée.
Bon, mais c'est bien. Je suis bien contente que ça soit tenu. Puis c'est ça, c'est la deuxième année. Donc, on comprend que ça marche bien, cette affaire-là. Là.
On comprend. Puis au début, je me disais, est-ce qu'il y a suffisamment de productions pour remplir la programmation d'un festival? D'ailleurs, il va y avoir 3 dates de projection en octobre dans des maisons de la culture là, qui sont à venir avec une programmation différente. Donc, apparemment, c'est un monde que je connais peu, mais oui, il se fait énormément de choses dans le monde. Puis c'est quelque chose qui. Le cinéma adapté ou intégré plutôt, là, ça mérite d'être connu puis d'être développé.
Ah, c'est une forme d'invitation aussi à certaines personnes à produire ce genre de documentaire parce qu'il y en a beaucoup dans des groupes qui travaillent en communication ou qui travaillent dans des domaines parallèles, donc qui ont sûrement les aptitudes pour le faire.
Absolument, puis on est aussi à une période, je pense, qui est ouverte à, bon, on sort des sentiers battus, des scénarios clichés, des formules hollywoodiennes un petit peu déconnectées de la réalité, puis on présente des vraies personnes avec des défis dans leur intégralité. Là, c'est vraiment, je pense que ça va se déployer là, au cours des prochaines années.
Ah, mais si bien. Maintenant, dans un tout autre domaine, si on laisse un peu la culture pour aller vers le sport, il y a des activités qui, normalement, devraient se tenir à Québec, je crois, au cours des prochains jours, dans le domaine du volleyball.
Oui, on organise une activité qui est habituellement sur une base hebdomadaire. Là, l'été, c'est un petit peu plus ponctuel de volleyball adapté. Donc, ça se tient à l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec. Et il y a comme deux groupes. Il y en a un qui, on l'appelle vrai ballon, donc qui est du volleyball en fauteuil roulant, mais plus pour je dirais pas niveau compétition, mais pour les personnes qui ont une certaine habileté ou expérience. Donc, le jeu va quand même très, très vite. Puis, il y a aussi un autre groupe avec un ballon léger. Donc, le jeu est un petit peu plus lent, puis c'est plus récréatif. Donc et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut participer. C'est pas nécessaire d'avoir une limitation motrice, mais par contre, tout le monde est assis dans un fauteuil avec les roues légèrement inclinées là, de volleyball. Puis mes collègues qui sont à Québec me racontent qu'ils ont toujours beaucoup de plaisir à jouer. Donc, c'est ouvert à tous, évidemment.
Bon, mais c'est bien. C'est toujours intéressant, je trouve, ces activités où on peut s'installer puis jouer, participer avec, justement, ces limites là, qu'on connaît peu hein, quand on n'est pas dans ces situations-là.
C'est vrai, puis
Oui, allez-y, Vanessa.
Même que lorsqu'on n'est pas habitué de manier un fauteuil roulant, on se retrouve en situation de handicap aussi vis-à-vis de personnes qui ont l'agilité qu'on n'a pas nécessairement. Fait que ça, c'est intéressant aussi, cette espèce de revirement de situation. Mais bon, je...
Alors, est-ce que on s'arrête ici ou je voudrais pas vous bousculer pour vous parler des primeurs d'automne, à moins que vous ayez quelque chose à nous confier rapidement?
Très rapidement, le 6 septembre, une activité à Québec, musée Huron-Wendat à Wendake, donc nos collègues sont en train d'organiser ça. À Montréal, on prépare un pique-nique de la rentrée qui n'est pas encore annoncé et on travaille en ce moment à l'organisation des Journées québécoises des lésions médulaires qui vont se dérouler à la fin septembre. Donc, j'aurai l'occasion d'en reparler là, la prochaine fois parce qu'on va être en plein dedans là, lors de notre prochain rendez-vous.
Oui, votre prochain rendez-vous, effectivement, qui va avoir lieu à la fin septembre. Alors, merci Vanessa Anne Paré d'avoir été là et on vous souhaite encore du beau temps pour vos activités.
Merci Francine, puis au plaisir.
À la prochaine.
À la prochaine.
Messieurs, est-ce que vous avez des suggestions, vous, à nous faire pour...
Outre sortir de la ville pour aller voir les Perséides, parce que je sais que le c'était plutôt la fin de semaine dernière, mais comme c'est ma fête en fin de semaine, j'ai l'habitude de regarder le ciel parce qu'il en reste quand même des étoiles filantes. Fait que sortez de l'île, regardez le ciel, allez voir les étoiles filantes. Parce qu'il en reste. Mais
oui,
sinon,
pensez à Mathieu. Oui. Puis, on vous souhaite un joyeux anniversaire d'avance.
Merci beaucoup. Sinon, il y a la course des glorieux triporteurs qui va avoir lieu sur la place Simon-Valois. Ça, c'est dans Hochelaga. Ça, c'est samedi. Je ne sais pas si vous connaissez.
Oui,
mais c'est assez comique. Puis, il y avait aussi, j'ai noté, le festival multidisciplinaire Afro-Monde qui aura lieu au Quai de l'Horloge toute la fin de semaine, en fait, du vendredi au dimanche. Je ne sais pas si... c'était une des activités que vous aviez en tête, mais des conférences, des ateliers, la gastronomie, c'est super intéressant.
Oui, je l'avais en tête, mais Mathieu, il y en a tellement
exact.
Que ça va en faire un de moins parce que je suis obligée de bousculer les choses un petit peu. Est-ce que vous avez autre chose?
Non, c'est tout. Non. Moi, c'est les trois activités. Ben, moi, je serai à l'extérieur de l'île, donc je ne pratiquerai pas aucune des activités susmentionnées.
Mais quand même... c'est bon de nous, de nous faire part de vos préoccupations. Alors, puisqu'on parlait de festival, écoutez, il y en a. Bon, premièrement, là, c'est pas un festival, mais je vais commencer par ça. Je peux pas m'empêcher de passer sous silence la virée classique de l'Orchestre symphonique qui n'est pas terminée encore parce que ça a commencé par le grand, grand concert, là, comme à l'habitude. Mais ça continue et il faut aller sur le site de l'OSM pour regarder les activités qui sont soit gratuites ou tellement peu chères. Et on apprécie. C'est comme ça qu'on commence à apprécier la musique classique. Il y a l'International des Montgolfières, si on fait comme Mathieu et qu'on va à l'extérieur de l'île. Il y a aussi le festival Superfolk à Morenite, dans les Laurentides, jusqu'à dimanche, si on sort de l'île encore une fois. Et on ne sait jamais ce qui se passe. Hein? Là-bas, c'est toujours une surprise. Alors, c'est intéressant parce qu'on arrive là, puis ça peut être pas mal de fun.
Ben oui, il faut être ouvert d'esprit.
Comme ça peut être un petit peu, pas plate, là, mais disons moins ce qu'on espérait, peut-être pas toujours à la hauteur de nos attentes. Il y a le fameux festival Lasso.
Mm-hmm.
Qui va être au parc Jean Drapeau, en fait, ce soir, aujourd'hui et demain, qui est devenu quand même une manifestation importante là, à Montréal. Là. Il y a aussi le marché de nuit asiatique.
Ah oui, c'est vrai, c'est en fin de semaine.
Au quartier chinois. Non, mais c'est-à-dire que c'est du 24 au 27 août, mais j'en parle parce que on revient en onde seulement le 25
D'accord.
août. Il y a aussi parfois des inscriptions qu'il faut faire. Alors donc, il faut aller sur la page Facebook je rappelle, marché de nuit asiatique. Ça se passe dans le quartier chinois, où en fait, je dirais que le point central est le jardin Sakara, qui est sur la Gauchetière Ouest. Et sur la page Facebook, on peut s'inscrire. C'est gratuit. Pas évidemment pour le côté saveur et goûter, mais c'est quand même des prix, là, des petits prix pour aujourd'hui, là, des choses à 4 $ jusqu'à 12 $. Disons que quand on compare ce que ça coûte pour manger un sandwich, c'est assez petit prix. Il y a aussi, si ça vous intéresse, du côté de Mural, qui ne cesse d'inaugurer de nouvelles murales. Vous pouvez participer également le 24 août. Je vous en parle parce que si on veut assister à l'ouverture, le vernissage de cette murale de Mathieu Labrecque jeudi prochain, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire. L'inauguration comme telle a lieu au parc Jehan-Benoît, qui est sur la rue Berry, près du métro Sherbrooke, à 16 h. Et le dévoilement, bien, on va sur missioninclusion.ca et on peut s'inscrire pour participer à ce dévoilement. Je vais, en terminant, vous parler d'une activité que ça aussi, je retenais de vous en parler parce que je voulais y aller avant de vous en parler. Mmh. Ça s'appelle Prémonition, les voix.
Diantre.
C'est une... Oui, diantre. Il y a quelque chose de mystérieux. Vous avez commencé avec la planète Mars, alors
c'est
je vais
vrai.
Finir avec ben quelque oui. chose qui pourrait peut-être nous amener sur Mars. On ne le sait pas. C'est une œuvre d'art publique de Nicolas Grenier qui a lieu à la place Ville-Marie. En fait, c'est dans un couloir juste en face d'un magasin. Je vais être obligée de le dire parce que sinon, on ne se retrouve pas. C'est le magasin Brown. Et il y a un espace qui est là et c'est installé là. Ça se déroule, en fait, encore pour un certain temps, là, jusqu'au mois de septembre. Quelque part en septembre, j'ai la date quelque part. Je vais vous la donner... c'est jusqu'au 16 septembre. C'est du mardi au samedi de 11 h à 17 h. Et c'est une conversation avec une intelligence artificielle. C'est une conversation avec une intelligence artificielle. Alors, on entre dans cet espace. Je vous dirais que pour vraiment pouvoir converser, parce que vous pouvez observer, mais pour pouvoir converser, vaut mieux s'inscrire sur le site Internet pour pouvoir participer. Alors, je répète, ça s'appelle le Prémonition les voix, tout ça au pluriel. Vous googlez ça et vous allez y arriver. Alors, on s'assoit en face d'une personne, mais cette personne n'est que la voix de l'intelligence artificielle. Donc, on lui pose des questions de tout genre et cette voix nous répond. Et c'est quand on dit de tout genre, là, moi, j'ai essayé toutes sortes d'affaires. Je n'ai pas été capable de coincer l'intelligence artificielle. Il y a un moyen de le faire, mais c'est pas fair, comme on dit en bon français, quand on joue à des jeux de société.
Est-ce que c'est le but aussi, ouais?
C'est que, ben non, c'est ça, c'est pas ça. Le but, mais c'est parce qu'évidemment, c'est une intelligence artificielle, on sait comment ça marche, c'est basé sur des données, et les données compilées par l'artiste Nicolas Grenier, ça s'arrête en 2021. Mais le but, c'est de montrer qu'il y a... Derrière ce langage, il y a une interface avec laquelle on communique et c'est assez particulier.
Ça semble intéressant.
Ouais. C'est intéressant, c'est particulier. Et oui, on s'arrête ici. Malheureusement, c'est la fin de notre émission. Je remercie tous ceux et celles qui ont participé. Je remercie évidemment nos fidèles à la régie, ben Mathieu, notre Mathieu qui est toujours là, qui est accompagné, je le rappelle, ce matin de Jean-Christophe. Merci à vous tous et on se retrouve la semaine prochaine. Alors, bon week-end tout le monde!